Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Audience générale place Saint-Pierre ce mercredi, le pape conclut son cycle de catéchèse dédié au sacrement de l'Église par celui du mariage. Le pape recommande aux époux de ne jamais finir une journée sur une dispute, quelques mots suffisent pour faire la paix. Pas besoin d'appeler les Nations Unies, a-t-il déclaré. Visite jeudi au Vatican de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, l'occasion pour nous de voir les relations que la souveraine britannique, chef de l'Église anglicane, entretient avec les papes depuis Pie XII. Les évêques américains mobilisés en faveur des migrants clandestins qui tentent de rejoindre les États-Unis à travers le désert qui les sépare du Mexique. Le cardinal O'Malley, archevêque de Boston, a célébré mardi une messe où il rappelle le drame des latino-américains qui périssent dans ce qu'il qualifie de Lampedusa américain. En cette période de carême, nous vous proposons le témoignage d'un jeune catholique français qui vit ce temps qui nous porte vers Pâques grâce à une initiative originale. Plus de détails à la fin de ce magazine. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Le sacrement du mariage nous conduit au cœur du dessein de Dieu, un dessein d'alliance avec son peuple, avec nous tous, un dessein de communion. Le pape François a conclu ce mercredi, place Saint-Pierre, son cycle de catéchèse consacré au sacrement de l'Église, en parlant donc du mariage. Les précisions de Cyprien Viette.
L'homme laissera son père et sa mère et s'unira à sa femme, et les deux seront une seule chair. Le pape François a développé sa catéchèse en partant de ce passage de la Genèse, et il a souligné que l'alliance de Dieu avec nous est représentée dans cette alliance entre l'homme et la femme. Quand un homme et une femme célèbrent le sacrement du mariage, Dieu se reflète en eux, inscrit en eux ses propres traits et le caractère indélébile de son amour. Le mariage agit dans la simplicité et aussi dans la fragilité de la condition humaine. Nous savons bien combien de difficultés et d'épreuves peuvent apparaître dans la vie des deux époux. L'important est de maintenir vif le lien avec Dieu qui est à la base du lien conjugal, a rappelé le pape. Il s'est inscrit dans la réalité de l'expérience de nombreux couples qui traversent des périodes de crise. C'est vrai que dans la vie de couple, il y a beaucoup de difficultés, que le travail, que le salaire ne suffisent pas, que les enfants ont des problèmes, tant de difficultés. Et tant de fois, le mari et la femme deviennent un peu nerveux et entrent en conflit. Ils se disputent, et c'est comme ça. Il y a toujours des disputes dans le mariage et parfois les assiettes volent. Mais nous ne devons pas devenir tristes pour cela. La condition humaine est ainsi. Le pape a adressé ses pensées aux couples qui sont en difficulté, souhaitant que Dieu les aide de son amour et les remplisse de sa miséricorde. La vie maritale était un thème cher à Jean-Paul II, dont l'Église se souvient aujourd'hui, 9 ans après sa mort et moins d'un mois avant sa canonisation. Au terme de l'audience, le pape François a donc salué avec chaleur les pèlerins polonais, nombreux ce mercredi au Vatican.
Cyprien Viette. Et à l'issue de l'audience générale, le pape a reçu de la part de 2 jeunes autistes un tandem unique en son genre, puisque entièrement réalisé par 2 jeunes autistes. Particulier aussi, puisque le conducteur embrasse littéralement le passager assis devant lui, ce qui permet un pédalage plus sûr et adapté à des enfants handicapés. Ce cadeau a été offert à l'occasion de la Journée mondiale de l'autisme. La Journée de l'autisme, elle a été marquée notamment par le message de Mgr Zimowski, le président du Conseil pontifical pour les services de santé, qui se demande comment combattre ce stigmate. Selon Mgr Zimowski, la réponse s'enracine dans une éthique de la solidarité que nous devrions tous redécouvrir et alimenter. Cela peut advenir, précise-t-il, avec le support de l'engagement social, par des actions synergiques dans le cadre des soins, de l'information, de la communication et de la formation, en favorisant un passage à la vraie compréhension et à l'acceptation de la maladie qui ne nie jamais ou ne porte jamais atteinte à la dignité de chaque personne. Par ailleurs, la 29e conférence internationale du Conseil pontifical pour la pastorale de la santé se tiendra du 20 au 22 novembre prochain au Vatican et sera consacrée à l'autisme. Vous pouvez évidemment retrouver plus de détails sur ce message de Mgr Zimowski sur notre site internet www.radiovaticana.va. Le pape remercie personnellement les évêques espagnols pour les vœux qu'ils lui ont adressés à l'occasion du premier anniversaire de son élection au trône de pierre. Le pape François leur envoie donc ses prières afin d'accompagner les efforts qu'il prodigue pour intensifier la proclamation de l'évangile et le témoignage de la charité, partageant avec tous la joie de suivre le Christ, de cultiver son amitié et d'accueillir avec simplicité sa parole de salut, source d'inspiration pour construire chaque jour une société plus juste et solidaire et plus fraternelle. Une semaine après la visite du président américain Barack Obama, c'est au tour d'Elisabeth II de rencontrer pour la première fois le pape François. La reine d'Angleterre et son époux, le prince consort Philippe, seront reçus jeudi au Vatican pendant un séjour de quelques heures à Rome. La souveraine y a été invitée par le président italien Giorgio Napolitano. Après un déjeuner privé au palais présidentiel du Quirinal avec le chef de l'État italien, Elisabeth II sera reçue en audience par le pape dans l'après-midi. Cette rencontre suivra un protocole considérablement allégé comparé aux précédentes visites de Sa Majesté, selon des sources diplomatiques. C'est la quatrième visite de la reine Elisabeth au Saint-Siège et François est le cinquième pape qu'elle rencontre depuis Pie XII. François-Charles Mougel est professeur émérite d'histoire contemporaine à Sciences Po Bordeaux. Il nous livre son point de vue sur les relations qu'a entretenues la reine d'Angleterre avec les différents papes.
Les deux chefs d'État et chefs d'Église partagent des points de vue communs, et notamment sur la question de la déchristianisation et sur la question donc du rôle de la foi dans le monde moderne. Et les pontifes successifs et la reine d'Angleterre partagent une même inquiétude sur la sécularisation de nos sociétés. En même temps, donc, elle se pose des questions sur l'évolution donc des pratiques sociales en ce qui concerne les mœurs, aussi bien dans les églises que dans l'ensemble des corps sociaux, de façon à ce que on ait l'impression, et c'est un point de vue qui compte beaucoup pour la reine, la spiritualité ne disparaisse pas. Donc les relations ont été étroites, et notamment avec le pape Jean-Paul II, mais plus récemment avec le pape Benoît XVI qui avait fait une grande visite au Royaume-Uni. Les préoccupations actuelles des souverains pontifes et celles de la reine d'Angleterre, me semble-t-il, convergent de plus en plus.
Et quels sont justement les points où on sent vraiment une différence et peut-être des tensions?
Les tensions, je crois qu'elles sont relativement apaisées. Ce qui pourrait peut-être préoccupé, c'est le rôle de l'Église catholique éventuellement dans la question de l'Irlande du Nord, même si il est bien clair que l'Église catholique, comme d'ailleurs les autres religions protestantes, vont maintenant dans le sens du compromis des fameux accords du Vendredi Saint de 1998. Mais sur le fond, je crois qu'il n'y a pas de tension particulière.
Et donc, concernant la personnalité donc du pape François, qu'est-ce qu'on peut attendre en fait comme relation entre la reine Elisabeth et donc ce nouveau pape?
Bon, le pape est beaucoup plus jeune que la reine actuelle, sans doute plus extravertie. La reine va bientôt avoir 88 ans, elle est plutôt timide, refermée sur elle-même, mais elle a quand même un sens du contact vu la quantité de chefs d'État, de chefs d'Église qu'elle a rencontrés au cours de son règne. Mais je crois qu'ils sont tous les deux conscients de leur responsabilité politique et spirituelle. Et ça, je crois que ça peut leur donner tout de même, sinon une connivence, du moins une vision assez proche de l'évolution de la société et qui, pour l'un comme pour l'autre, je pense, est assez préoccupé par les évolutions, notamment dans la société, mais aussi donc les inégalités à l'échelle internationale. Le pape vient de l'hémisphère sud, mais n'oublions pas que la reine est aussi reine de 16 autres pays dans le monde, qu'elle est à la tête d'un Commonwealth de 54 États, dont bonne partie du tiers-monde. Donc, ils ont là aussi, je pense, à l'échelle mondiale, hein, et n'oublions pas que l'Église anglicane est aussi une Église mondiale, avec 77 millions de fidèles. Ce sont des points de vue qui peuvent les rapprocher de façon peut-être encore plus étroite que des relations strictement limitées au cas d'un côté du Royaume-Uni et du Saint-Siège de l'autre.
François-Charles Mougel, professeur émérite d'histoire contemporaine à Sciences Po Bordeaux, il était interrogé par Audrey Radondi. La visite de la reine Elisabeth d'Angleterre au Vatican, vous pourrez évidemment suivre tout ça sur notre antenne ainsi que sur notre site internet. Deux dernières nouvelles en provenance du Vatican. Le pape a nommé nonce apostolique au Tchad, Mgr Franco Coppola. Il était jusqu'alors nonce apostolique en République centrafricaine à Bangui. Et puis, le pape a donné son accord à sa béatitude de Chevtchouk, archevêque majeur de Kiev, pour créer l'exarchat de Kharkov, exarchat créé à partir de celui de Donetsk. Une décision prise, bien sûr, après l'approbation de ce projet par le synode de l'Église grecque catholique d'Ukraine. Une image forte, celle du cardinal Sean O'Malley, archevêque de Boston, qui donne la communion à travers la barrière qui marque la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Un geste accompli également par Mgr Kikanas, l'archevêque de Tucson, lors de la messe célébrée mardi à Nogales. C'est dans l'état de l'Arizona. Les évêques américains ont voulu, par cette célébration, rappeler la mémoire des 6000 migrants latino-américains morts depuis 1998 lors de leur tentative de traverser la frontière, mourant le plus souvent dans le désert. Cette messe est intervenue quelques jours après la visite très médiatique du président américain Barack Obama au Vatican, visite au cours de laquelle la question migratoire a été abordée. Marie Duhamel.
Le symbole est fort, un mur, une barrière séparant deux mondes, bien peu en vérité, mais assez pour provoquer des drames humains innombrables. Dans son homélie, le cardinal O'Malley a rappelé quelques chiffres. Les 400 corps trouvés chaque année en moyenne dans le désert, hommes, femmes, enfants, les 25 000 enfants qui chaque année se retrouvent seuls aux États-Unis, les 10 millions de clandestins exposés à l'exploitation et sans couverture sociale. Ces gens, a souligné l'archevêque de Boston, contribuent pourtant par leur travail à l'économie américaine et aux services sociaux et médicaux. Suivant l'exemple du pape François à Lampedusa qui avait dénoncé la mondialisation de l'indifférence, le cardinal américain a répété que l'Église doit aller vers les périphéries pour chercher notre prochain dans des lieux de souffrance et d'obscurité. Nous sommes là, dit-il, pour redécouvrir notre identité comme fils de Dieu et redécouvrir ainsi qui est notre prochain, qui sont notre frère, notre sœur. Nous devrions tous nous identifier un tant soit peu à ces groupes de migrants qui cherchent à entrer dans notre pays. C'est ce qu'il a conseillé aux fidèles, rappelant que les États-Unis sont un pays de migrants.
Marie Duhamel. En France, un prêtre du diocèse de Tarbes et Lourdes a été condamné mardi pour agression sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans par le tribunal correctionnel de Tarbes. Condamnation à 2 ans de prison avec sursis et une interdiction définitive d'exercer une activité au contact des enfants. Dans un communiqué, le diocèse tourne ses pensées vers la victime de ces actes odieux et à sa famille. « Il est inacceptable, affirme le communiqué, qu'un être humain et surtout un prêtre dans l'exercice de son ministère profite de la confiance d'un enfant pour commettre de tels méfaits. La justice ayant fait son travail, c'est maintenant au tribunal ecclésiastique de l'Église de se prononcer. » Depuis que des soupçons pesaient sur lui, le prêtre en question n'exerçait plus qu'un ministère extrêmement réduit en attendant les résultats de l'enquête. Le prêtre concerné est à partir d'aujourd'hui interdit de tout ministère par Mgr Brouvet, évêque de Tarbes et Lourdes. En Suisse, la reconnaissance du baptême entre confessions chrétiennes va être élargie. Le 21 avril, la communauté de travail des églises chrétiennes organisera d'ailleurs un culte solennel à Riva San Vitale, au Tessin, pour célébrer cet événement. Jusqu'à maintenant, seules les églises protestantes de la FEPS, l'église catholique romaine et l'église catholique chrétienne avaient reconnu mutuellement leur baptême. C'était en 1973. Cette reconnaissance s'étend maintenant à l'église anglicane et aux luthériens. Les églises orthodoxes ont participé à la réalisation du document, mais ne l'ont pas signé. Le problème est seulement que les églises orthodoxes en Suisse sont des représentations d'églises étrangères, principalement serbes et roumaines. Il n'est donc pas de leur ressort de signer une telle reconnaissance. L'Église est entrée dans la 4e semaine de carême et les initiatives se poursuivent dans les paroisses afin d'aider les catholiques à vivre cette période particulière. Nous vous avions parlé il y a quelques jours d'une initiative originale destinée aux jeunes, Mister Booster Carême. Des vidéos avec des conseils sur les 3 piliers du carême, la prière, le partage et le jeûne, mise en ligne sur Internet et les réseaux sociaux. William Avenier a 24 ans, c'est un Lyonnais, et pour lui, Mister Booster Carême l'aide à vivre cette période différemment des autres années.
C'est une aide, j'ai vu les trois vidéos qui sont sorties déjà. J'ai trouvé ça assez amusant de voir un peu cette présence qui est un peu comme un ange gardien. Alors j'imaginais pas le mien comme ça, c'est-à-dire avec des lunettes oranges. Ça permet de se mettre des petits rappels concernant la prière. Moi je sais que pour le carême, là j'ai essayé de me débrancher, par exemple au niveau du téléphone, de tout ce qui est des réseaux sociaux, parce que ça me sollicitait énormément. Voilà, de m'en couper pendant 40 jours, que ça permet de prendre du temps pour autre chose, de contempler un peu plus, plutôt qu'être captivé ou d'être ravi par le téléphone en permanence. Donc voilà, je trouve que ces vidéos sont des petits plus qui peuvent aider.
Pourquoi on a besoin de soutenir et d'aider aussi les jeunes dans le temps de carême?
Comme c'est quelque chose qui est plus du tout présent dans la société, et j'en ai encore fait l'expérience la semaine dernière, j'essaye de jeûner les vendredis, et au travail par exemple, c'est difficile de s'échapper pour le déjeuner comme je travaille dans un restaurant, et il fallait trinquer pour la réussite de jeunes qui avaient passé un concours, des choses comme ça. Il y a beaucoup de tentations de l'extérieur, dans la société, les gens globalement comprennent pas trop, on est un peu gêné, parce qu'on n'a pas envie d'expliquer à tout le monde ce qu'on peut essayer de faire pendant le carême, donc je pense que c'est important que les jeunes se sentent soutenus, et de voir qu'ils ne sont pas les seuls. C'est des choses qu'on peut faire dans l'intimité ou, comme je vous disais, en fraternité, entre amis. Je pense que c'est important aussi.
Est-ce que vous avez justement dans votre entourage des amis qui ne sont pas catholiques, et comment expliquez-vous le carême, ou est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez partager avec eux?
Oui, un petit peu. Alors souvent, ça s'explique par des refus d'invitation, comme je vous disais, par exemple, à une soirée le vendredi soir ou des choses comme ça. Après, il y a des gens plus ou moins fermés, des gens qui essayent de comprendre un peu le sens de ce qui apparaît comme des privations et des mortifications qui peuvent avoir l'air un peu tristes et un peu fâcheuses, quoi. Voilà, quand on parle de mortification, c'est pas très positif, alors que c'est vraiment... C'est pas se priver par devoir de quelque chose, mais c'est vraiment un souhait. Je trouve que le carême est porté par les solennités là, de Saint-Joseph et de l'Annonciation. Il faut réaffirmer son oui, donc c'est aussi le témoignage d'un oui réaffirmé par le carême et de cet effort-là dont on peut témoigner, je trouve, auprès d'amis ou de notre environnement, mais qui est vraiment à faire lors d'une rencontre si la personne est disposée, a envie de l'entendre aussi. Pas forcer et pas non plus faire une démonstration d'ascétisme ou de « je suis un super catho parce que j'ai pas mangé le vendredi ». C'est essayer de dépasser un peu ça et de donner du sens à des actes qui sont réellement choisis et qui ont une profondeur qu'on peut ignorer si on reste sur ce qui est visible.
Qu'est-ce que le carême vous apporte dans votre quotidien, dans votre vie? Est-ce que c'est un plus?
Ça me permet d'être plus vigilant, d'essayer donc d'être plus attentif aux actes que je pose, aux décisions que je prends, de sortir un peu des rails du quotidien, des habitudes, qu'elles soient même des habitudes de la pratique religieuse, hein, aller à la messe, le seul jour, ou avoir une réunion de scie. Voilà, essayer là de réinventer ça et de le refaire comme au premier jour pour renouveler vraiment ce désir de suivre le Christ, affirmer son oui et essayer de donner un peu autre chose. Il y a l'idée de l'aumône aussi dans le carême. J'essaie de donner ce que j'ai pas forcément, c'est-à-dire du temps pour d'autres ou pour des activités que je fais pas d'habitude, prendre un peu de lecture, de prier le chapelet plus régulièrement. C'est une attention aux détails aussi, je pense, qui est importante, et de faire les choses en conscience, prendre un temps et certaines actions ou activités qu'on fait un peu de manière automatique d'habitude, faire attention et les offrir à d'autres. Comme ça va peut-être vous faire sourire, mais prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, et puis en montant, penser et prier pour les personnes qui n'ont pas la possibilité, par exemple, parce qu'elles sont à mobilité réduite. Être un peu plus conscient de ce qu'on fait et l'offrir au Seigneur quand on peut.
Voilà, William Avenier, un jeune Lyonnais de 24 ans, au sujet de cette initiative Mister Booster Carême. Il était interrogé par Esther Vazeux. Et puis on reste dans le cadre du carême, puisque Pax Christi International lance une campagne mondiale « Rencontre avec la paix » pour exprimer sa solidarité avec le peuple syrien et pour promouvoir une solution négociée à la crise majeure qui frappe ce pays. Alors que les membres de Pax Christi à travers le monde rencontrent dans la solidarité le peuple syrien brisé par une violence continuelle, nous jeûnerons, nous prierons et nous plaiderons pour la fin de la violence et pour une fructueuse rencontre avec la paix à la table des négociations. La campagne « Rencontre avec la paix » se déroule depuis le 5 mars et durera jusqu'au 20 avril pour coïncider avec la période du carême chrétien. En plus de la prière et du jeûne individuel, les organisations membres de Pax Christi seront encouragées à organiser des sessions de prière, d'instruction et de jeûne, et des activités dans les paroisses, les écoles et les communautés religieuses. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure.